Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'IMO. Nous sommes le vendredi 12 mars 2021. Il fait encore un peu frais à 7h du matin, mais on est ravis de vous accueillir. Et je dis nous, car je suis ce matin en compagnie de Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice.
Bonjour Johanna, bonjour à tous. Et oui, un petit 5 degrés à sortir de la couette ce matin.
Et oui, mais ça ne va pas nous empêcher de faire le tour de l'actualité immobilière arrivée cette semaine. On reparlera dans quelques instants des taux de crédit qui remontent pour la première fois depuis un bon moment. Et puis, nous retrouvons, comme chaque semaine, Aurélie Dantez avec sa chronique de l'emploi dans l'IMO qui nous donnera quelques conseils pour décrocher un emploi dans l'immobilier. Vincent Favreau nous fera le tour de l'immobilier de luxe à travers l'Europe. Et puis nous verrons comment investir intelligemment, investir malin, avec un nouveau livre du même nom qui vient de sortir, Fabrice.
Tout à fait, et puis à partir de 8h, on retrouvera Grégory Vaillant, c'est quelqu'un qui nous a rendu visite il y a quelques semaines, et c'est le patron de Comme il vous plaira.
Comme il vous plaira, qui permet à l'acheteur de décider quelle commission il veut donner à l'agent immobilier, un concept que l'on découvrira un peu avant 8h. Et en attendant, eh bien c'est parti pour le MAG de l'IMO.
Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Si vous souhaitez emprunter pour acheter une maison ou un appartement, attention, sortie de crise pourrait rimer avec taux d'emprunt plus élevé. En tout cas, on semble prendre cette direction. Alors, faut-il s'en inquiéter ? Christophe Bordet fait le point avec Sandrine Alonier. Elle est directrice des études de vousfinancer.com.
Bienvenue dans le MAG de l'IMO et on accueille aujourd'hui Sandrine Alonier, directrice des études et porte-parole chez vousfinancer.com. Bonjour Sandrine, comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Bon, alors Sandrine, si je vous ai convié dans ce MAG de l'IMO, c'est tout simplement parce que vous avez lancé un communiqué cette semaine très important sur la remontée des taux d'intérêt. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui se passe concrètement sur le marché des taux d'intérêt pour ceux qui, évidemment, ont envie de devenir propriétaires en ce moment.
Oui, alors en effet, on a perçu là pour le mois de mars, sur les barèmes reçus pour ce mois de mars, une remontée des taux de crédit. Alors pour l'instant, on reste sur des taux, une remontée des taux qui est isolée. On a finalement assez peu de remontées. Ça va concerner 5-6 banques, mais ça fait quand même depuis le mois de novembre dernier qu'on n'avait pas constaté cette hausse. Donc il y a quand même un petit retournement de tendance. Reste à savoir si ce mouvement va être durable ou pas.
Ouais, Sandrine, ça se traduit comment concrètement en chiffres ?
Alors concrètement, on a des banques qui ont remonté leur taux affiché entre 0,10 et 0,20%. Mais attention, je précise bien qu'il ne s'agit que des hausses de taux affichées, puisque après, il est encore possible de négocier au cas par cas des décotes et des réductions de taux. Donc pour les clients qu'elles veulent réellement capter, ces hausses de taux ne seront pas appliquées.
Alors, très concrètement, sur 15 ans, sur 20 ans, etc., ça signifie quoi, là ?
Oui, ça fait une hausse de la mensualité de même pas une dizaine d'euros, donc c'est pas significatif. Mmh. Non, ce qui est important, c'est de s'interroger si cette tendance va être durable ou pas. En fait, la croissance économique devrait reprendre cette année en France. Hein. On parle de 5 à 6% de taux de croissance cette année. On a aussi une croissance mondiale qui devrait redémarrer et du coup, une inflation qui devrait revenir. Et en fait, c'est ces perspectives d'inflation à la hausse qui entraînent une remontée des taux d'emprunt d'État. Et en fait, les taux d'emprunt d'État sont des références pour les banques pour déterminer leur taux de crédit. Mais la grosse différence par rapport aux années précédentes, c'est que là, les banques ont énormément de liquidités. Il y a beaucoup d'épargne placée et elles ont besoin de placer ces liquidités et le faire auprès de la Banque Centrale Européenne est aujourd'hui sans risque pour elles. Mais ça a un coût puisque le taux de dépôt est négatif à la BCE. Donc les banques veulent prêter, elles ont intérêt à prêter et c'est pour ça que je pense que la remontée des taux ne va pas être durable puisque aujourd'hui toutes les banques ont la même stratégie, prêter, accorder des crédits immobiliers pour capter des nouveaux clients et c'est pour ça qu'elles se livrent une concurrence interbancaire forte et que finalement cette remontée de taux ne devrait pas être forte durant les prochains mois.
Enfin, cela étant quand même, cette remontée, elle arrive quelques semaines après une remontée qui a déjà eu lieu aux États-Unis, hein, si j'ai bien suivi,
oui,
Sandrine.
Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est bien ça. Donc, on va surveiller ça de près. Mais aujourd'hui, ce qui compte pour les banques, c'est aussi leur politique commerciale. On a un début d'année qui est un peu plus faible en termes d'activité sur le marché immobilier. La production de crédit en janvier, selon la Banque de France, par rapport à janvier 2020, est en baisse de 20%. Donc là, les banques ont des objectifs de production de crédit. Et finalement, c'est pour ça qu'elles ne vont pas forcément suivre l'envolée des taux. Et que même aujourd'hui, on a eu une remontée des taux d'emprunt d'État dans le sillage des taux américains de l'ordre de 0,30 points. Pour autant, les banques n'ont remonté leur taux que de 0,10 et seulement certaines. Mmh. Donc, moi, je dis, il n'y a pas de péril en la demeure. On a des taux qui restent extrêmement attractifs. Hein. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas eu encore d'impact de ces hausses de taux sur les taux moyens. Et on peut emprunter à 1,05% sur 15 ans. 1,25% sur 25 ans et 1,25 sur 20 ans et 1,45 sur 25 ans, ce sont des taux qui restent historiquement bas. Donc voilà, c'est encore le moment d'acheter.
Sandrine, est-ce que on constate une légère détente sur les conditions d'octroi de crédit par les banques ?
Oui, tout à fait, puisque là, on est au début de l'année. Et comme je vous le disais, voilà, les banques veulent faire leurs objectifs de production de crédit plutôt sur la première moitié de l'année. En plus, là, on est au mois de mars, c'est le printemps de l'immobilier. C'est là, normalement, qu'il y a beaucoup de transactions. Les banques ne vont pas vouloir louper, si je puis dire, ce créneau-là. Et c'est vrai qu'il y a eu en plus cette détente, puisque le Haut Conseil de stabilité financière a assoupli ses critères. On peut aller maintenant jusqu'à 35% d'endettement au lieu de 33%. On peut aller jusqu'à 27 ans de durée de prêt dans certains cas. Et comme là, les banques veulent faire des crédits, elles ont tendance de nouveau à financer des résidences secondaires ou des investissements locatifs qu'elles ne finançaient plus fin 2020. Bon. Après, attention quand même, hein. Il ne faut pas non plus trop être dans le miroir aux alouettes, si je puis dire, parce que ce sont quand même que des petites tendances. Et la tendance générale, c'est quand même que les banques restent extrêmement prudentes. Hein. On est dans un contexte économique tendu. Il risque d'y avoir pas mal de licenciements une fois qu'il n'y aura plus le dispositif du chômage partiel. Donc, les banques sont très attentives à ça. Mmh. Et on a encore des gens qui restent exclus du crédit. Tous ceux qui travaillent dans des secteurs sinistrés, touchés par la crise, eux ne peuvent pas profiter ni de ces taux bas, ni des détentes sur les conditions d'emprunt, malheureusement.
Merci beaucoup. Autres, oui. Merci beaucoup, Sandrine Alonier, d'avoir été avec nous. Vousfinancez.com pour plus d'informations encore et bien sûr nos réseaux sociaux. À bientôt.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontres dédiées à l'immobilier.
2021, année annoncée morose pour le logement neuf, du jamais vu depuis plus de 20 ans. Les explications avec Vincent Favreau.
Il s'agit de la pire année depuis 1997 pour le logement neuf. En 2021, le secteur ne prévoit que 307 000 logements sur le marché, bien loin des 500 000 logements nécessaires pour le renouvellement du parc. Les professionnels du secteur s'alarment de cette très mauvaise perspective. Une crise historique qui se profile, selon Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment. Des mesures puissantes pour relancer les opérations et soutenir la demande, c'est ce que pense nécessaire Grégory Monod, président du pôle Habitat de la FFB. Il faut redonner toute sa légitimité à la construction dans un pays où trop de décideurs pensent que le logement le plus vert, c'est celui qu'on ne construit pas. Ce sont les mots d'Alexandre François Cuchac, présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, dans les colonnes de nos confrères du Figaro Immobilier. De son côté, le gouvernement se défend d'avoir oublié le secteur du bâtiment neuf dans son plan de relance. Toujours dans le Figaro Immobilier, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, estime qu'en prolongeant le PTZ et le Pinel, ce sont plusieurs milliards d'euros qui reviennent sur la table pour le secteur du neuf. La ministre qui lance aussi un appel aux maires de France, construisons plus et en bonne densité, ce sont ces mots. Côté vente enfin, les promoteurs ont vendu près de 40 000 logements en moins en 2020 par rapport à 2019, soit une perte d'un quart de l'activité totale. De nombreux observateurs dénoncent aussi le manque de réaction des pouvoirs publics à ce sujet et alertent à long terme sur un changement de modèle difficile à absorber pour l'habitat des Françaises et des Français.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
WeSeed, acteur de référence du crowdfunding en France, crée WeSeed Transition, nouvelle filiale 100% dédiée au financement des startups et projets du secteur de la transition énergétique et de la croissance verte. Une filiale d'investissement essentielle et nécessaire pour les investisseurs qui souhaitent répondre de façon concrète à l'urgence climatique planétaire. Les détails avec Kenza Brega qui a interrogé Nicolas Serres, le président de WeSeed.
Bonjour Nicolas Serres. Bonjour.
Vous êtes le président de WeSeed. Alors, un mot pour commencer sur le modèle que propose WeSeed depuis sa création.
Alors, c'est le modèle du financement participatif qui consiste à réunir des investisseurs, essentiellement personnes physiques, qui vont mettre chacun un peu d'argent pour financer un projet, et un projet d'acteur économique, un projet économique, une entreprise. C'est ce qu'on fait chez WeSeed.
Donc, vous accompagnez les entreprises depuis déjà assez longtemps, je crois. Hein. Vous avez une vraie expertise dans le domaine.
Oui, absolument, parce qu'on était on est précurseur en fait dans l'application du financement participatif au financement des projets économiques, des projets d'entreprise. On s'est créé en 2008 à Toulouse, donc on était vraiment les premiers acteurs sur le sujet. Et pour matérialiser la ligne de temps, en fait, il y a qu'en 2014 que la réglementation a permis aux plateformes vraiment d'exercer de manière légale. Donc nous, on arrivait bien avant et on avait déjà commencé à financer l'immobilier en 2011.
Oui, puisque vous avez monté après WeSeed Immobilier et vous avez annoncé il y a quelques jours la création et le lancement de WeSeed Transition. Alors quel va être le but de cette nouvelle filiale ?
Alors, le but de cette filiale, en fait, c'est de mettre en place une équipe spécialisée pour aller originer des dossiers qui tournent autour de la transition énergétique et de la croissance verte. Mmh. Et l'enjeu, c'est de répliquer en fait le modèle gagnant qu'on a utilisé sur l'immobilier, hein, qui fonctionne de la même manière sous forme de filiale, et de pouvoir sourcer des dossiers de haute qualité en fait et les mettre en ligne sur le site de WeSeed, sur le site de financement participatif, pour offrir à nos investisseurs en fait une diversification là de produits de placement avec le meilleur niveau qualitatif.
Alors, vous avez la sensation, Nicolas Serres, que la recherche de solutions environnementales devient et deviendra à l'avenir un enjeu majeur de notre époque et celle des entreprises ?
Oui, absolument. Oui, absolument. C'est au cœur des préoccupations. Je pense que la crise sanitaire de 2020, elle a mis le doigt dessus. En fait, elle a permis vraiment de mettre en lumière ces enjeux-là. Et si je projette le sujet, en fait, je pense que toute entreprise qui n'intégrera pas des enjeux environnementaux ou sociétaux dans sa propre, je dirais, gouvernance et dans ses offres, en fait, elle trouvera plus de financement dans quelques années. C'est évident, en fait. Donc, tout le monde va aller dans ce sens-là. C'est une nécessité pour les générations futures et je pense que tout le monde en a conscience. Ouais.
Alors, au travers de WeSeed Transition, vous avez un objectif, on va dire, très ambitieux. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je crois que vous vous êtes laissé jusqu'à 2024. Hein ?
Voilà, globalement, les métriques sur le marché du financement participatif, c'est 100 millions. Donc nous, on pense que on atteindra 100 millions en année pleine dès 2023, en fait, hein, en termes de financement sur des projets soit d'efficacité énergétique, soit sur les thématiques d'énergie marine renouvelable, soit en mobilité décarbonée, soit dans le domaine des biocombustibles.
Et si on a envie de vous contacter, on a une entreprise, on a envie de se lancer dans ce type de projet, en tout cas ambitieux pour notre avenir et l'avenir de notre planète, comment est-ce qu'on vous contacte, Nicolas Serres ?
Alors, vous nous contactez directement à partir du... Alors, soit on a des numéros d'appel qui sont présents sur le site weseed.com,
oui.
Soit vous avez un espace sur le pied de page en fait, du site qui permet à tout émetteur en fait, de venir déposer une demande ou déposer un dossier. Et on le traitera instantanément. On a des équipes qui sont faites pour ça.
Très bien. On vous souhaite en tout cas beaucoup de courage à vous et aux équipes de WeSeed pour cette nouvelle filiale et cette nouvelle aventure. Merci beaucoup, Nicolas Serres.
Le Mac de l'Imo revient avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Bonjour, c'est Philippe Boyer. Retrouvez-moi chaque mois dans Complètement à l'Ouest. Économie, art, sciences, gastronomie. Des invités prestigieux analysent le monde qui nous entoure et décryptent notre société. Bref, ils nous parlent de tout, sauf d'immobilier. Rendez-vous mardi à 19h sur Radio Imo. Alors, prêt à mettre le cap à l'Ouest ?
Allô Radio Imo, c'est vous les journalistes, c'est vous qui posez vos questions. Pour y répondre, les meilleurs experts, agents immobiliers, assureurs, avocats, comment acheter sa maison au meilleur prix ? Comment négocier le prix d'un loyer avec son propriétaire ? Comment ne pas se faire arnaquer par un artisan peu scrupuleux ? Les experts d'Allô Radio Imo vous répondent chaque vendredi à 9h sur Radio Imo. Alors, à vendredi !
Le Mac de l'Imo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Il y a du bon et du moins bon. Dans un rapport publié cette semaine, la Cour des comptes appelle à corriger le tir. Si la loi SRU encourage indéniablement la construction de logements sociaux, de nombreuses villes ne pourront pas atteindre leur objectif de 20 ou 25% de HLM d'ici 5 ans. Les explications tout de suite avec Nicolas Tarade.
Le constat est loin d'être une surprise. La loi SRU qui impose des quotas de logements sociaux et des impératifs de mixité sociale à un certain nombre de communes à l'horizon 2025 a permis d'accroître la production de HLM. Ça, c'est une première chose. Sauf que voilà, selon un rapport de la Cour des comptes demandé par la Commission des finances du Sénat et rendu public cette semaine, eh bien, au moins un tiers des villes concernées n'atteindront pas leur quota de HLM en 2025. La Cour des comptes appelle donc à corriger le tir et à préparer l'après 2025. L'idée pour le gouvernement, c'est de se montrer paradoxalement à la fois plus contraignant et dans le même temps plus souple. Il convient de mieux garantir l'efficacité des moyens de coercition confiés au préfet de département lorsqu'une commune est carencée, estiment ainsi les magistrats financiers. Des moyens qui peuvent aller jusqu'à l'octroi de permis de construire en lieu et place du maire. Cette mesure a justement été appelée de ses voeux il y a quelques jours par Emmanuelle Cosse, la présidente de la Fédération USH des organismes HLM. En attendant d'éventuels ajustements, la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, a rappelé son attachement à la loi SRU et a fixé le cap. On sait, elle a lancé le défi de construire 250 000 logements sociaux en 2 ans.
Le Mac de l'Imo, l'emploi dans l'Imo, Aurélie Dantèze.
Allez, il est l'heure de retrouver notre partenaire Recrutimo pour découvrir 2 nouvelles annonces d'emploi parues cette semaine. Et pour cela, on retrouve Aurélie Dantèze, elle est responsable de l'acquisition de talents chez Recrutimo. Bonjour Aurélie.
Bonjour Jeannet, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 annonces parmi les offres d'emploi que nous avons sur recrutimo.com. La première, Nexity a décidé de lancer son propre centre de formation des apprentis CFA en interne, en vue de former ses futurs collaborateurs et offrir des perspectives de carrière aux plus jeunes. À travers la création de son CFA, les apprentis de l'immobilier, Nexity fait le choix d'investir sur les nouvelles générations pour inventer dès aujourd'hui les métiers immobiliers qui feront la ville de demain et contribuer à son niveau à l'insertion et l'emploi des jeunes. Avec une première promotion à partir du 1er avril 2021 pour une formation de développeur foncier, sanctionnée par un diplôme de Bac plus 3 de responsable de programme. Rejoindre Nexity, c'est laisser votre empreinte dans la ville. La deuxième, Parisienne Immobilier recherche un ou une consultante immobilier location dans le cadre de son développement. Au sein d'une équipe jeune à taille humaine, vous participerez à la croissance du chiffre d'affaires. Paris Seine Immobilier dispose de 5 agences implantées au centre de Paris avec un positionnement haut de gamme.
Et vous êtes comme chaque semaine venu avec un conseil pour les candidats et un conseil pour les recruteurs.
Si j'avais un conseil pour les recruteurs, à l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, l'immobilier longtemps associé à des métiers d'hommes, les professions de l'immobilier voient leur parité progresser depuis plusieurs années. Cependant, une parité encore timide au poste de responsabilité. Et pour les candidats, aujourd'hui, focus sur un métier. Le développeur foncier est à la base de tout projet de création d'un nouvel ensemble immobilier, qu'il s'agisse de résidentiel ou de murs professionnels. Il a en effet pour mission de rechercher des terrains à bâtir ou des opérations de réhabilitation et de réaliser les études de faisabilité des projets envisagés par une parfaite connaissance de son secteur et des règles d'urbanisme qui sont applicables. Vous pouvez retrouver toutes ces fiches métiers sur recrutimo.com. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Aurélie, on vous retrouve la semaine prochaine avec 2 nouvelles annonces et 2 nouveaux conseils. Et en attendant, eh bien, direction le site www.recrutimo.com pour découvrir des milliers d'annonces d'emploi dans l'IMO.
Le Mac de l'IMO revient avec Promu, Crédit Advisor et Opinion System.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Yes, he was. Talking to me, you come and tell me everything is alright. You kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy
ever teach me. Was the son of a preacher man. Yes, he was. He was.
Un classique pour commencer la journée, c'était Dusty Springfield avec Song of a Preacher Man.
Le Mac de Limo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Après l'exode rural, va-t-on assister à l'exode urbain ? Une question assurément dans l'air du temps. La crise sanitaire a rebattu les cartes de l'immobilier, du marché de prestige en particulier. Dans son sillage, le retour en grâce de la résidence secondaire et l'apparition du concept de la résidence dite semi-principale. Pour Barnes, il s'agit d'une véritable lame de fond, en partie liée à la réorganisation des vies professionnelles de chacun. Selon Bertrand Couturier, le directeur associé Barnes Propriété et Château, la tendance est notable. Écoutez son interview, il répond aux questions de Nicolas Tarade.
Bertrand Couturier, bonjour.
Bonjour.
Alors une première question aujourd'hui sur, eh bien, on le sait, avec la crise sanitaire, il y a des envies d'ailleurs, des envies de plus d'espace, de plus de verre. Comment vous le voyez ? Comment vous analysez cette situation ?
Effectivement, les conséquences de la crise du Covid sont importantes sur l'immobilier. On a constaté très rapidement, après le début de la crise, pendant le premier confinement, une augmentation des consultations sur les portails immobiliers et sur les sites immobiliers de Barnes, qui nous ont fait comprendre que les gens allaient certainement avoir une vision différente de l'habitat pour les mois à venir, mais probablement pour de nombreuses années.
Vous avez évoqué un concept de résidence semi-principale. Ça veut dire quoi, ce concept ?
Et ça, c'est lié au télétravail, c'est-à-dire que cette période qui est maintenant longue, puisque ça fait plus d'un an que ça a commencé, a mis en lumière la possibilité que beaucoup de métiers et de fonctions dans les différentes entreprises pouvaient être faites à distance. Et donc, à partir du moment où on débloque l'obligation d'être à proximité de la ville, on peut imaginer avoir envie d'habiter ailleurs que dans une petite surface, parce que les prix sont beaucoup plus importants, et avec des espaces vers là où dans les zones urbaines il y en a de moins en moins.
Ailleurs, ça veut dire où ? Ça veut dire qu'il y a des destinations entre guillemets préférées ? Il y a quelques zones par-ci par-là en France ?
Tout est lié à plusieurs éléments. Le premier, qui est assez intéressant parce qu'on l'a noté régulièrement, c'est éventuellement la région d'origine des gens qui pensent à repartir. Donc on voit souvent des Bretons consulter pour essayer de trouver des biens dans la région Bretagne, c'est assez logique. Il y a une constante, c'est que s'ils ont un lien encore assez fort avec la métropole dont ils dépendent, professionnel, j'entends bien, ils vont souhaiter être à moins de 2 heures de la ville en question. Aujourd'hui, avec les lignes TGV, il y a beaucoup de villes qui sont à moins de 2 heures, même de Paris, puisque Bordeaux est à 2h10. Donc, on a vu pas mal de Parisiens aller à Bordeaux. Et on peut imaginer que d'autres métropoles peuvent, comme ça, nourrir des régions entières partout où c'est à moins de 2 heures de cette métropole.
Et au niveau des prix, est-ce que vous voyez des fluctuations de prix, justement, dans ces zones concernées par une arrivée plus ou moins massive d'urbains ?
Alors c'est amusant, c'est que depuis 2010, il y avait une tranche de clientèle qu'on ne voyait plus sur les biens de campagne, c'était les jeunes. Et il se trouve que cette crise du Covid a déclenché chez les jeunes une vision différente de la campagne. Ils l'avaient oublié, ils considéraient que c'était souvent un caprice qui était onéreux, et ils préféraient l'idée de se dire que leurs dépenses de vacances étaient portées vers les voyages, vers l'étranger, vers la découverte de nouvelles cultures, ou la recherche du soleil par exemple. Le Covid a redistribué les cartes, et aujourd'hui on a la chance de voir des jeunes arriver sur le marché. Alors, Pendant cette période de 2010 à 2019, les prix de la campagne en France avaient beaucoup chuté. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait que peu d'acheteurs. Le Covid a redistribué les choses, l'offre et la demande sont beaucoup plus équilibrées, et donc aujourd'hui on commence à voir les premières conséquences sur les prix de cet engouement, c'est-à-dire que bien évidemment ça ne descendra pas plus bas, mais c'est en train de remonter. On a des zones où on voit des progressions sur l'année aux alentours de 5 ou 10% pour les plus belles zones.
Comment vous voyez les mois, les années à venir ? Est-ce que vous pensez que ce phénomène que l'on constate aujourd'hui, c'est un simple phénomène finalement passager, ou c'est quelque chose qui sera amené à durer, qui sera quelque chose de pérenne ? Bon, c'est toujours délicat hein, de prédire une situation, surtout quand on est dans une pandémie mondiale comme la nôtre, mais comment vous voyez les années à venir ?
Nous étions un peu choqués du fait que les jeunes ne s'intéressent plus à la campagne ou ne la regardent plus, parce que c'est quand même l'origine de l'homme, quoi. On vient tous, on a tous forcément des arrière-grands-parents qui étaient agriculteurs. Donc cette coupure du lien avec la nature, moi, me frappait beaucoup. Je pense que quand les urbains vont redécouvrir ce qu'est la nature, vont avoir la chance d'élever des jeunes enfants avec beaucoup plus de temps passé à la campagne, ils vont retourner à leurs racines, et donc je pense que ça sera durable. C'est-à-dire que on devrait avoir, je pense, beaucoup de jeunes dans les années à venir qui vont chercher à avoir une résidence au contact de la nature. Ça peut être le bord de mer aussi, hein, pour les plus passionnés de bateaux, ou ça peut être la montagne pour les gens qui aiment non seulement les sports d'hiver, mais également l'altitude. Donc, pour toutes ces destinations, je pense qu'on on aura dans les années à venir une clientèle importante.
Eh bien, Bertrand Couturier, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin dans le Mac de l'Imo sur Radio Imo.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
De Notting Hill à Londres jusqu'à Uzès dans le Gard, le cabinet Knight Frank vient de publier son rapport sur les places mondiales de l'immobilier de luxe, revue avec Vincent Favero.
Chaque année, le cabinet Knight Frank dresse une étude très complète sur les plus grandes places du luxe pour l'immobilier dans le monde. On y retrouve une sélection au niveau européen de plusieurs villes, dont deux qu'on pouvait penser plus éloignées de par leur actualité récente. La première ville, c'est Londres. Dans la capitale britannique, on note une recrudescence de demande malgré la crise sanitaire et malgré le divorce entre le pays et l'Union européenne. Et pour cause, le prix du mètre carré à Londres est très 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 cher. Ainsi, Londres compte 28% de sa population sous le seuil de pauvreté, car il est de plus en plus difficile de s'y loger. Mais de l'autre côté, les propriétaires sont eux assis sur une mine d'or avec les prix qui s'envolent. Près de 875 000 londoniens sont millionnaires en dollars, comme le rappelle le journal Libération. C'est 50 000 de plus qu'à New York, par exemple. Et c'est très intéressant pour de grandes fortunes de s'installer à Londres. La ville reste un endroit paisible pour les quartiers riches et aux portes de tous les continents, l'Europe mais aussi à quelques heures en avion de New York, de la Russie ou de l'Asie. Enfin, si un bien devait résumer le marché londonien, ce serait cette minuscule maison d'à peine 2 mètres de large, la plus petite maison de Londres, on vous en parlait il y a quelques semaines sur Radio Imo, à vendre pour plus d'un million d'euros aujourd'hui. Nous déplaçons maintenant le focus en France avec une ville que les ultra riches adorent et que l'étude du cabinet Knight Frank a sélectionné pour un portrait, une élégante cité médiévale à l'ouest d'Avignon et au nord de Nîmes, cité d'art et d'histoire avec un très beau centre historique préservé. Un descriptif de carte postale rêvée pour les touristes étrangers. On parle ici d'Uzès dans le Gard, ville de 8500 habitants à taille humaine et typiquement provençale, mais sous ses allures de petite ville du sud, le territoire renferme des opportunités fortes d'achat immobilier. C'est ce que souligne Knight Frank. Pour entre 1 et 1,5 million d'euros, vous pouvez toujours trouver un mas provençal traditionnel, nous dit le cabinet. De 1,5 à 3 millions d'euros, il y a des châteaux Renaissance exceptionnels et bien conservés. Et puis dans le centre historique, le cabinet termine comme ceci, vous pourriez acquérir un appartement rénové pour environ 500 000 euros. Un très beau village avec de belles demeures, donc bien éloigné du tumulte londonien. Un parallèle pour l'immobilier de luxe que souligne le cabinet Knight Frank tout au long de son étude.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Et si la cave ou le parking était un bon investissement pour s'assurer un avenir paisible et une retraite sans difficultés financières ? Dans leur dernier ouvrage intitulé « Investir malin » paru aux éditions Vibert, Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, investisseurs aguerris, livrent les clés pour investir intelligemment quel que soit son âge, ses envies et ses revenus et ce, sans aucun apport.
Bonjour Alexandra Gaëtan.
Bonjour Joanna.
Alors, indissociable, hein, on vous connaît sur Radio Imo, toujours tous les deux.
Exactement. Un binôme de choc.
Écoute, en tout cas, on est ravis d'avoir pu vous avoir tous les deux. Alors, votre livre, il est sorti, il s'appelle Immobilier, investir malin pour préparer l'avenir. Comment vous est venue l'idée de ce livre ?
Alors, l'idée du livre, elle est venue, en fait, ça remonte, hein, c'est arrivé à peu près en 2010. En 2010, en fait, on a tous les deux entrepris de lire un document très intéressant, qui est le document, le rapport du COR, Comité d'orientation des retraites, et donc qui dépeignait un petit peu l'avenir des retraites. Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, à la lecture de ce rapport, en fait, l'avenir était plutôt sombre et qu'il fallait absolument faire quelque chose pour essayer d'avoir des retraites. D'ailleurs, l'actualité montre que les retraites, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Et donc, on a essayé d'imaginer voilà, quelle pouvait être la solution pour justement préparer au mieux sa retraite. Et donc, on est tombé sur l'immobilier. Et on s'est dit, bah voilà, effectivement, on va s'intéresser à l'immobilier. Et on s'est aperçu qu'en fait, autour de nous, il n'y avait pas forcément beaucoup de personnes qui se posaient la question. Et que, comment dire, l'immobilier était soit totalement ignoré, soit vu un peu de manière négative. Voilà. Et donc, on s'est dit, on a commencé à agréger un peu d'expérience, un peu de vécu. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, on a quand même suffisamment d'éléments pour écrire un livre. Voilà.
N'importe qui peut devenir investisseur. Quand on dit ce mot, on pense à des gens qui ont déjà un beau patrimoine et qui sont avancés plutôt dans la vie. Vous nous dites aujourd'hui que ce n'est pas le cas ?
Non, c'est absolument pas le cas. Effectivement, c'est souvent l'image qui est véhiculée, c'est-à-dire qu'on voit les investisseurs comme des gens qui... Alors, il y en a, bien entendu, hein, qui ont déjà un patrimoine, qui ont déjà des moyens. Mais en fait, justement, c'est l'intérêt du livre, c'est d'avoir un panel d'investissements totalement différents. Alors, bien entendu, on va retrouver des investissements classiques où il faut avoir du patrimoine, il faut avoir un peu de trésorerie, il faut avoir une surface financière suffisamment conséquente, mais on a aussi des supports vers lesquels on peut s'orienter avec des revenus tout à fait modestes, et d'ailleurs, comme le disait Alexandre, pas forcément d'ailleurs de financement au départ, puisque on va passer par la banque, et donc il faut réussir bien sûr à avoir l'assentiment de la banque, mais il y a n'importe quel support en fait, et donc ça s'adresse à plein de personnes.
C'est quoi investir malin ? C'est investir sans risque ?
Alors, investir sans risque, il y a toujours une part de risque.
C'est une question de philosophie.
Oui, c'est une question
de philosophie.
Voilà. Il est en 4 heures. Il y a toujours une part de risque. Après, c'est ce qu'on quantifie d'ailleurs dans le livre sur certains supports. On essaie de quantifier justement le risque. Il y a certains supports qui sont un peu plus risqués, d'autres un peu moins. Le risque zéro n'existe pas. En revanche, si on s'assure à toutes les étapes d'avoir pris un certain nombre de précautions, on navigue quand même dans des eaux plus calmes que si, effectivement, on fait sans aucune précaution et qu'on se lance comme ça sans aucune entre guillemets formation ou en tout cas avoir un minimum regardé le milieu. Donc le risque zéro n'existe pas. Par contre, voilà, investir malin, c'est... je sais pas, on peut citer un exemple actuel. Investir malin, actuellement, c'est, par exemple, on sent bien qu'avec le contexte, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent avoir un jardin, donc une petite maison, un jardin, c'est quand même plus facile pour vivre les périodes de confinement ou de couvre-feu. Donc, par rapport à ça, on sent qu'il y a une grosse demande tout autour, par exemple, de la région parisienne. Donc là, l'investissement malin, c'est, par exemple, acheter ce type de bien et faire de l'achat-revente. On sait très bien que, de ce fait, si on acquiert un type de ce type-là, alors on peut faire soit du neuf, soit de l'ancien avec de la rénovation, en prenant garde à un certain nombre de choses, parce que en termes de rénovation, en ce moment, avec ce qui nous attend, il faut être quand même assez précautionneux, il faut bien préparer son projet. Mais voilà, typiquement, ça, c'est, je pense, un investissement malin du moment.
Acheter un terrain, y mettre deux maisons, ce qui permet d'équilibrer finalement l'équation économique par rapport à la rentabilité qu'on peut en attendre.
Et ça, c'est malin et à la portée de tous.
Exactement. Faut, en fait, pour vendre ce type de projet, il faut aller voir des banques en ayant fait une sorte de business model pour vendre l'idée, vendre le sérieux, vendre le concept, vendre le fait que les biens seront liés ou seront loués ou bien vendus. C'est aussi un travail de conviction et c'est la raison pour laquelle on a ajouté un chapitre assez important qui est clé sur la négociation, comme l'évoquait Gaëtan tout à l'heure, parce que finalement, vendre ses idées, c'est aussi quelque chose de clé dans le processus d'achat immobilier. Il faut vendre l'idée, il faut vendre l'idée pour que le financement soit obtenu.
Et toutes ces infos, tous ces conseils, tous ces cas sont évidemment dans Immobilier, investir malin pour préparer l'avenir. C'est paru aux éditions Vuibert, c'est déjà disponible, donc vous pouvez le commander sans souci. Merci aux auteurs Alexandre Brunet, Gaëtan Lefèvre d'avoir été avec nous sur Radio Immo. Et d'ailleurs j'en profite pour rappeler qu'on peut vous retrouver sur l'antenne de Radio Immo tous les mois avec l'émission Investir malin, également disponible sur Radio Patrimoine. Merci à vous deux.
Merci Johanna.
Le Mac de l'Immo revient avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Bonjour, c'est Christophe Bordet sur Radio Immo. Je vous propose de découvrir ensemble les lieux qui comptent pour les stars. Chaque mois, dans l'émission La Maison où je vis, un écrivain, un chanteur, un comédien nous raconte les maisons, les appartements, les monuments qui ont marqué et qui marquent encore leur vie. Vous êtes curieux ? Alors visitons ensemble leurs espaces de vie. Découvrons leur intérieur, leurs tendances déco. Suivez-nous sur Radio Immo, La Maison où je vis. C'est le vendredi à 20h. On compte sur vous.
Décret tertiaire et rénovation énergétique des bâtiments. Axéo Énergie vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z. Audit énergétique, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements, une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale naît la performance finale. Axéo Énergie, www.acceo.eu. Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Un freinage est très visible sur la hausse des prix de l'immobilier dans les grandes métropoles du pays. On fait le point avec Vincent Favero.
Il y a eu les projections et puis il y a eu le Covid. Et depuis, le marché immobilier dans les grandes villes de France s'est freiné et les prix ont cessé d'augmenter, comme le soulignent nos confrères du Parisien.fr. À Paris, la densité démographique, mais aussi les fermetures des commerces pour Covid et avant cela les mouvements sociaux à répétition amènent à du jamais vu, baisse des prix de 1,8% sur un an et de 1,5% sur les trois derniers mois, selon les chiffres de Meilleur Agent. Ajoutez à cela des perspectives très peu réjouissantes, le développement du télétravail et une proche banlieue en plein développement avec les grands événements comme les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, et le marché immobilier est pour le moment en stand-by et les prix baissent. Pour Lyon, la hausse que caractérisait la ville depuis 10 ans connaît elle aussi un sérieux ralentissement. Première baisse de 1,3% sur les trois derniers mois, ce n'était pas arrivé depuis 2001, soulignent les professionnels du secteur. On note même une baisse des négociations de -5 à -6% sur les biens traditionnels et moyens, des biens dans le marché basique lyonnais qui voient leur intérêt baisser grandement. Dynamique différente en revanche à Marseille, où le marché reste dynamique, plus 7,3% sur un an sur le prix médian des ventes, malgré des difficultés régionales qui persistent, comme la différence des prix et des envies entre le nord plus populaire et le sud plus aisé de la ville. À Marseille, le changement de municipalité, la situation géographique et le climat sont pour beaucoup dans cette remontée des prix pour une ville dont le potentiel, selon les acteurs locaux, est encore très très fort et la qualité de vie bien meilleure que d'autres grandes métropoles.
Le Mac de l'Immo revient avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Yeah. c'est vraiment toi. Ça se sent. Ça, ça, c'est vraiment toi.
Le Mac de Limo, permis de démolir, Robin Rivaton.
Comme chaque semaine, on retrouve tout de suite l'édito de Robin Rivaton qui jette un œil sans complaisance au monde de l'immobilier.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Permis de démolir, l'émission qui met fin aux fausses idées sur l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler du retour des institutionnels, des investisseurs institutionnels, ces assureurs, ces grosses banques, ces fonds de pension, retour dans le logement et dans le résidentiel. Tout le monde n'a que ce mot à la bouche, ils seraient partout et ils ne veulent absolument que gonfler leur portefeuille. Pour rappel, les institutionnels avaient en France un très gros portefeuille de logements qui représentait entre 15 à 20% du parc total de logements privés jusque dans le milieu des années 2000. Et puis, ils ont commencé à le vendre avec la chute des prix au milieu des années 90 jusqu'à le liquider complètement. Aujourd'hui, il ne représente à peine 1% de ce marché, en décalage assez fort avec d'autres pays européens, que ce soit l'Allemagne, les Pays-Bas. On partage cette similitude seulement avec le Royaume-Uni. Et donc, aujourd'hui, ils sont partout. On les voit on voit leur retour annoncé dans pleine page. On voit un certain nombre de deals qui pourraient l'annoncer. Pas plus tard que le mois dernier, l'investisseur Heinz a signé avec le promoteur Kaufmann & Broad pour l'acquisition d'un certain nombre de résidences à travers le pays. Et il fait suite à deux très, très gros deals de logement. On pense au deal de l'année dernière d'AXA qui a racheté Kronos, la foncière logement du groupe INLI, Action Logement, et on pense un peu plus de temps auparavant à un deal qui s'appelait Vesta, qui était des logements de la SNCF qui ont été rachetés par Ampère Gestion de la Caisse des dépôts. Donc on pourrait penser qu'il y a effectivement un retour massif avec des phénomènes extrêmement puissants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a presque une prime à vendre à ces investisseurs institutionnels, là où auparavant évidemment il y avait une marge plus importante à vendre à la découpe, à des particuliers, et l'appétit est tellement grand que évidemment maintenant il y a ce phénomène de primes. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est pas un retour en trompe-l'œil ? Est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose qui, au final, n'est pas si réel que ça ? Tout simplement, pourquoi les investisseurs institutionnels viennent dans le logement ? Ils viennent pour avoir de la stabilité. Ils sont prêts à faire des efforts sur la rentabilité au bénéfice de la stabilité, en se disant qu'un locataire de son logement dans une zone plutôt tendue va toujours continuer de payer. Et ce prisme-là est effectivement très vrai. La seule question, c'est à quel coût, et aujourd'hui les opportunités sont de plus en plus rares, et on sait qu'avec la raréfaction de la production neuve de logements, elles le seront de plus en plus. Donc la question, c'est à quel coût, à quel niveau de rentabilité ces institutionnels sont-ils prêts à descendre, et à quel niveau leur appétit est-elle prêt à se concrétiser.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Nous vous l'avions annoncé la semaine dernière, Tristan Barrès, le nouveau directeur général de Pearl, devait être avec nous dans ce Mac de l'Immo. Malheureusement, un contretemps de dernière minute l'a empêché d'être là. Alors, partie remise évidemment. En attendant ce matin, nous vous proposons de réécouter le Mag que nous avions consacré à Grégory Vaillon, le cofondateur de Comme il vous plaira. C'était le 9 octobre dernier et j'étais en compagnie de Sylvain Lévy-Valency. Merci Fabrice de m'avoir accompagné pour cette première heure. On se donne rendez-vous La semaine prochaine, on sera le Mac partira du côté de la Hongrie puisqu'on recevra Xongor Ksukas, qui est responsable du property chez BNP Paribas Immobilier. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on vous laisse en compagnie de Grégory Vaillant.
Le Mac de l'Immo, la matinale info
et rencontres dédiées à l'immobilier.